Direct en jeu de Radio Insolite, toujours avec des insolites, toujours avec des choses où on va chercher derrière. Et là, je suis heureux de retrouver Emma. Bonjour Emma.
Bonjour Alain.
Emma Scali, qui, alors si je devais dire tout ce qu'elle fait, elle est autrice, actrice, psychanalyste, écrivain.
On peut s'arrêter là. Hein.
Ouais, non, on va s'arrêter là parce que franchement, c'est comme si je disais que tes études, t'as été à la Sorbonne, t'as fait de la psychologie clinique.
Tout va bien.
Bon, qui es-tu pour commencer? Parce que bon, les gens se rappellent qu'on s'est retrouvés à plusieurs reprises sur l'antenne de Direct en jeu, mais on va quand même leur rappeler qui tu es. Vas-y.
Alors, oui, on s'est retrouvés à plusieurs reprises sur cette antenne pour parler à l'époque d'un spectacle que j'ai créé qui s'appelle « Unis vers la lumière » et que j'ai créé en 2018 à l'occasion de la première journée internationale de la lumière organisée par l'UNESCO. Et donc ça, c'est un spectacle que j'avais écrit et dans lequel je jouais puisque j'étais seule en scène, qui était mis en scène par Basile Minacci et Elie Chouraki, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois. Mmh. Alors, qui je suis à part ça? Bon, je vais plutôt dire ce que je fais, parce que je ne sais pas si ça va me définir par rapport à ce qui je suis, mais en tout cas, ça parlera aux gens. Donc, comme tu l'as très bien dit, Alain, je t'en remercie, je suis comédienne, scénariste et psychanalyste. Et je mêle en fait ces trois casquettes dans mes différentes activités. Et en tant que scénariste, je travaille sur des projets de séries à la télé, des séries polars, mais pas que. Et j'interviens aussi, enfin j'ai une casquette particulière en tant que scénariste, c'est-à-dire que j'interviens sur la cohérence psychologique des personnages. C'est-à-dire que quand les scénaristes travaillent, et ben moi je vais dire, ben ça vous pouvez le faire parce que votre personnage, il pourrait faire ce genre de choses. En revanche, ça, vu son profil psychologique, il ne pourrait pas le faire. Voilà, en gros.
La cohérence psychologique des personnages. Mais dis, après t'avoir parlé, je ne vais plus du tout regarder une série à la télé comme d'habitude. Hein. Ça va me changer.
Il y a des chances.
Ah bon. C'est, tu remets en cause tout le travail des metteurs en scène en particulier, ou des auteurs?
Alors, je ne remets pas en cause leur travail, disons plutôt que je les accompagne, en fait. L'idée, c'est quand tu es auteur ou réalisateur et que tu as une idée sur un personnage, en fait, tu as envie de raconter une histoire. Et moi, je vais aider, en fait, à ce que cette histoire soit vraiment crédible sur le plan psychologique. C'est-à-dire que suivant quelle psychopathologie on a, et ce n'est pas un mot genre « les gens sont fous », hein, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut catégoriser, entre guillemets, se mettre dans des catégories, c'est-à-dire de névrose plutôt obsessionnelle, plutôt dans la séduction qui tendrait vers quelque chose de plus hystérique, etc., eh bien, on ne se comporte pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, les gens, enfin, mais ça, on s'en rend compte même nous dans la vie. En fait, parfois, on peut anticiper les réactions de nos proches. Mmh. D'accord ? Et bien ça, c'est parce qu'on a une intuition psychologique de leur psychopathologie.
Oui,
et c'est... donc, de fait, avec cette intuition-là, il y a des choses dont on sent qu'un tel ne ferait jamais ça. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une telle transformation dans sa vie, donc que ce soit amené. Et ça, c'est tout mon travail qui va consister à accompagner les auteurs et à dire, bah, si vous voulez que votre personnage il aille d'un point A à un point B, vous ne pouvez pas le faire d'un coup d'un seul, parce que ça va être très bizarre, le spectateur ne va pas y croire. Et donc, comment est-ce qu'on va amener le personnage à bouger ou à ne pas bouger et à rester dans sa, entre guillemets, névrose, quoi.
Enfin, je vais reprendre quand même un mot que tu as dit, l'intuition. Mais l'intuition, c'est inné, c'est comme ça. Alors que là, tout le travail de fond que tu fais changer quand même cette notion d'intuition.
Oui, en fait, l'intuition, c'est celle du spectateur. Le spectateur, il a une intuition, mais l'auteur, il a aussi une intuition, mais après, cette intuition, il la travaille, si tu veux. Et à force de la travailler, parfois, il n'est plus forcément juste par rapport à son intuition de base. C'est-à-dire que comme en fait, il a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur son personnage et surtout sur ce qu'il a envie de raconter, eh bien, parfois, il veut faire des trucs, il veut faire faire des trucs à son personnage parce que ça va servir la dramaturgie, ça va permettre un rebondissement. Sauf que si ce n'est pas organique, si ce n'est pas de l'intérieur, si ça ne vient pas du personnage lui-même, là, ça ne va pas être crédible. Mais je veux dire, en tant que spectateur, il y en a plein, surtout quand on regarde des séries et tout ça aujourd'hui, où on va se dire... c'est bizarre qu'il fasse ça, lui. Ou c'est bizarre qu'elle fasse ça, elle. Et ça va nous faire sortir, en fait. Donc, nous, on ne va pas savoir pourquoi, en tant que spectateur, ça ne marche pas. Moi, mon travail, c'est d'essayer de dire, ben, en tant que psy, je ne verrais pas ce personnage faire ça. J'ai un exemple, par exemple, pour des gens qui auraient regardé la série Dexter, donc, qui est cette série sur un tueur en série aux États-Unis. Il a une sœur qui est Debra, et sa sœur Debra, elle a tout de la caractéristique du profil hystérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un personnage qui est dans la séduction, qui est en quête d'amour, qui est dans la reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Elle a une problématique œdipienne, c'est-à-dire que elle est pas sortie de son complexe d'Œdipe vis-à-vis de son papa. Elle le remet sur son frère. Enfin bref, elle a vraiment. Mais c'est une névrosée moyenne.
Mais
En
elle est pas
fait,
normale.
elle a juste envie d'être aimée. Si, si. Elle est normale, en gros. Sauf que quand elle va découvrir, donc désolé, je spoil, que son frère est un tueur en série, elle qui est devenue flic en plus, eh bien, d'un coup, les scénaristes nous font croire que c'est OK pour elle et qu'elle le vit, enfin, elle le vit mal, genre 5 minutes, quoi. Mais elle ne le vit pas profondément mal. C'est-à-dire que ce personnage, ils en font un personnage pervers, alors qu'ils nous l'ont vendu comme une hystérique depuis le début de la série. Là, d'un coup, ils la font passer du côté de la perversité. Eh bien, le spectateur, il va décrocher. Il ne saura pas pourquoi il décroche, d'accord? Mais en réalité, il décroche parce que c'est plus crédible. Ce qui aurait été crédible sur un personnage comme ça, par exemple, ça aurait été de faire que, évidemment, elle ne va pas dénoncer son frère parce qu'elle l'aime, mais en fait, ça la fasse sombrer dans la folie, par exemple. Ça, ce serait logique. Un peu comme le personnage d'Ophélie dans Hamlet, si tu veux. Et en fait, ça aurait été juste sur un plan psychologique, alors que ce qu'ils mettent en place, ce n'est pas juste. Mais ça sert leur intérêt de scénariste. Sauf qu'en voulant absolument servir leur histoire, eh bien, ils perdent la véracité psychologique de ce qui arrive à leur personnage, et donc ils vont tout simplement perdre de l'audience. Parce que les gens vont pas accrocher, quoi. Ils vont se dire, attends, c'est n'importe quoi. Mais les gens, eux, sauront pas pourquoi, en fait, hein, ils décrochent.
D'accord.
Moi, mon travail, c'est d'analyser pour pas que les gens décrochent, en fait.
Mais en fait, ça peut s'appliquer sur toutes les séries, sur tous les films, même les pièces
Oui,
de
non,
théâtre.
vraiment. En fait, tout ce qui concerne la fiction. Donc, pièces de théâtre, séries, films, romans. Tu peux faire la psychologie des personnages, mais j'ai envie de te dire, tu peux même le faire sur des personnages historiques, par exemple. Hein, moi, je vais participer à des événements autour de Sarah Bernhardt, puisque c'est les 100 ans de la mort de Sarah Bernhardt, là, cette année, qui était donc une très grande actrice du 19e siècle, la première star internationale, on pourrait même dire. Enfin, aujourd'hui, ce serait Lady Gaga, quoi. Elle serait sur tous les réseaux, sur TikTok, sur Twitter, etc. Et Sarah Bernhardt, c'est elle qui a inventé le star system. C'est fou parce que personne ne le sait, or c'est une Française. Et elle a d'ailleurs son étoile sur Hollywood Boulevard. Eh bien, Sarah Bernhardt, dans le cadre des 100 ans de sa mort, en fait, moi, je vais donner une conférence au musée Jean-Jacques Henner à Paris, où je vais évoquer Sarah derrière le miroir et sa problématique entre hystérie et mélancolie chez elle, et en même temps sa pulsion de vie. Donc, et ça, c'est un personnage qui a vraiment existé. Donc en fait, la psychologie, ça s'adapte un petit peu, bah, à tous les êtres humains, hein, j'ai envie de dire.
Alors, ce qui est important, c'est que jeudi prochain, le jeudi 9 février à 19h30, tu vas, j'allais dire, te produire. Tu vas être à la librairie L'Instant dans le 15e arrondissement à Paris
Tout à fait.
pour échanger avec les gens. C'est important d'échanger.
Oui, tout à fait. Alors en fait, l'idée, c'est d'essayer de présenter un petit peu, mais vraiment de manière ludique, la psychologie, et puis de parler de séries aussi, parce que c'est sympa. Le livre qui vient de sortir, là, que j'ai écrit, qui s'appelle donc Séries sur le divan, histoire et personnages en thérapie, c'est un livre qui se veut ludique, en fait, puisque je mets sur le divan du psy, enfin sur mon divan, en gros, Walter White de Breaking Bad, mais aussi Cersei Lannister de Game of Thrones ou Tokyo de La Casa de Papel, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de d'évoquer un petit peu ce qui se trame dans notre psyché, en fait, mais de manière hyper ludique, pour que vulgariser, en fait, pour faire un peu de la pop psycho, quoi. Et donc, les gens peuvent bien sûr venir. Il y aura une présentation, en fait, du livre, et puis une explication sur un petit peu ce qui fonde notre psychologie, nos mécanismes de défense, nos résistances, ce qui fait aussi le terreau de bonnes histoires. Et puis, ensuite, il y aura un moment d'échange.
Toi qui d'habitude présente sur le terrain en tant qu'actrice, en tant que comédienne et tout, c'est facile d'écrire?
Non. Non, je ne peux pas dire que c'est facile. En fait, Boileau disait que, il fallait recommencer sans cesse, hein, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Eh bien, c'est un peu ça. Donc, en fait, l'écriture, c'est une. Comment dire? C'est à la fois jouissif et douloureux. C'est-à-dire qu'il y a dans l'écriture, par moments, un sentiment de lassitude ou de ne pas y arriver ou de ne pas s'en sortir. Puis il y a des moments de grâce extraordinaires où les personnages nous emmènent, en fait. Ils nous prennent par la main. Et dans ces moments-là, il faut leur faire confiance. C'est un petit peu ce qui se passe, j'imagine, pour le peintre ou le sculpteur lorsqu'il attend l'inspiration. Je me souviens d'une interview que j'avais entendue de Soulages, qui disait qu'il allait tous les jours dans son atelier à la même heure. Et la personne qui l'interviewait lui demandait pourquoi. Et il disait bah, pour être disponible. Disponible à quoi? À l'inspiration. Et il disait, elle vient souvent? Non, elle vient pas souvent, mais quand elle vient, je suis là. Bah, c'est un peu la même chose pour l'écriture, quoi.
D'accord. Tu as déjà le numéro 2, le tome 2 en prévision?
Non. Non, y a pas pour l'instant, il n'y a pas de tome 2 parce que. Alors, d'abord, c'est le deuxième livre que je sors, puisque j'avais un premier livre, mais qui était plutôt un livre ludique d'exercice, qui est toujours trouvable hein, sur Amazon, la Fnac, dans les librairies, on peut le commander, qui s'appelait Mon journal d'écriture thérapie, je deviens le héros de ma vie, qui est plutôt un livre. D'auto-coaching, j'ai envie de dire, hein, pour se donner des objectifs et avancer et écrire. Celui-là, ça ressemble davantage à un essai de vulgarisation, mais un essai quand même. Et là, enfin, mes projets d'écriture, ils sont vraiment plus tournés vers la fiction. Donc, j'interviens sur des séries qui sont en cours, en fait, pour des chaînes comme TF1, France Télévisions, sur la psychologie des personnages. Et je co-écris moi-même d'autres projets où je suis vraiment à la manœuvre, que ce soit pour l'audiovisuel ou pour le théâtre. Donc, il n'y a pas forcément de livre tout de suite à venir.
Est-ce qu'il faut réserver à la librairie l'instant pour la semaine prochaine?
Alors oui, je pense qu'il faut les appeler en fait à la librairie directement, à mon avis, pour pouvoir venir. Après, je pense qu'il y aura de la place, hein.
D'accord, mais il vaut mieux les contacter pour être sûr de pouvoir te
Oui,
voir.
bah pour être sûr, donc c'est cette librairie, elle se situe au 118, pardon, rue de Lourmel dans le 15e à Paris, 118 rue de Lourmel, et le numéro de téléphone, c'est le 01 46 22 26 64. 01 46 22 26 64. Et là, les gens peuvent téléphoner pour réserver, pour venir en fait à cette présentation, et puis ensuite il y a la dédicace, et c'est vraiment l'occasion d'échanger sur tout cet univers de séries. Enfin, c'est très chouette. C'est pas la première fois que je fais ça, et j'ai déjà fait des conférences dédicaces comme ça, et en fait c'est en général très ludique, les gens aiment beaucoup, et après on échange, et c'est très chouette, quoi. Et puis, je demande des extraits aussi de films, de séries, donc, ça donne un côté vraiment amusant.
Eh bien, n'hésitez pas à vous faire plaisir le jeudi 9 février à 19h30 à la librairie L'Instant. Enfin, vous allez non seulement avoir une conférence hyper intéressante, et vous allez rencontrer quelqu'un de particulier. Merci Emma pour ces moments.
Merci beaucoup, Alain. Merci infiniment de m'avoir invité.